Je vous propose ce matin, comme ces deux derniers dimanches, l'homélie de la messe de ce dimanche, 33e du temps ordinaire de l'année A. Dimanche dernier, dans la parabole des vierges sages et des vierges imprévoyantes rapportée par saint Matthieu au début du chapitre 25 de son évangile, nous avons entendu Jésus nous recommander de veiller. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. Les textes de dimanche dernier nous aidaient à comprendre que la veille conseillée par Jésus est, à travers la quête de la sagesse, la quête d'intimité avec Dieu, la construction d'une amitié avec lui. Et qu'elle est aussi cette veille, vigilance à l'autre, attention, soin, amour en acte. Située immédiatement après, la parabole de ce dimanche, parabole des talents chez Matthieu, nous venons de l'entendre, parabole des mines chez Luc, vise à nous aider à éviter une veille passive, une vigilance par trop ronronnante. Posons quelques éléments tels que les suggèrent les exégètes pour pouvoir ensuite dessiner des lignes de mise en œuvre de cette parabole dans nos vies. Les spécialistes, par exemple sœur Jeanne d'Arc, cette religieuse dominicaine pionnière du renouveau biblique, dont je m'inspire ici largement, commence par relever que la parabole des talents est complètement reliée à celle des vierges du dimanche dernier. Le thème est le même, c'est celui de l'attente de la fin des temps, une attente qu'il s'agit de bien remplir. Le lien entre les deux paraboles est manifesté par le début des paroles de Jésus. C'est comme un homme qui partait en voyage. Ainsi commence l'évangile que nous venons d'entendre. Ce « c'est comme », littéralement « car », montre bien que Jésus ne change pas de sujet, mais le précise, l'affine. L'homme parti en voyage remet donc 5 talents à un serviteur, 2 à l'autre et 1 au troisième, chacun selon ses capacités, nous dit l'Évangile. Cette dernière expression ne doit pas choquer ni même surprendre. Personne n'est lésé. Mais dès la remise des talents, les choses sont claires. Il est donné à chacun selon sa capacité à faire fructifier le don. À ceux qui ont reçu davantage, il sera demandé davantage. Un talent, c'est énorme. Un talent, ai-je appris, pèse 20 kilos. Il vaut 5 à 6 000 deniers. Environ 6 000 francs or, notent nos Bibles d'avant l'euro. C'est une somme énorme, tellement énorme qu'on ne trouve l'équivalent qu'une seule fois dans l'évangile de Matthieu. Le débiteur qui se fait remettre une dette de 10 000 talents et qui se montre ensuite impitoyable avec celui qui lui doit seulement 100 malheureuses pièces d'argent. Premier élément donc que nous reprendrons tout à l'heure, les sommes en jeu sont exceptionnelles, elles sont considérables et elles signifient dans l'Évangile la profusion des dons de Dieu. Les exégètes remarquent en seconde part que le maître des serviteurs revient longtemps après et l'interprète ainsi, la venue du Christ parmi les hommes qui inaugurera les temps messianiques et l'avènement glorieux à la fin des temps tarde pour permettre à chacun de faire fructifier ses talents. Troisième commentaire, observation des exégètes au moment de la rétribution. Il y a un paradoxe dans le fait que la somme confiée au serviteur, même à celui qui n'a reçu qu'un talent, est énorme. Alors, pourtant, que quand il s'adresse aux deux premiers à son retour, le maître dit « Très bien, serviteur bon et fidèle, Tu as été fidèle pour peu de choses. Je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. Pour peu de choses. C'est beaucoup, un, trois ou cinq talents, ou c'est peu de choses? C'est beaucoup. Mais tout le trésor du monde est peu par rapport à la joie du Seigneur dans laquelle il s'agit d'entrer. Le dernier commentaire que je vous partage concerne le malheureux serviteur et plus précisément la manière dont il se justifie. Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes là où tu n'as pas semé, tu ramasses là où tu n'as pas répandu le grain. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Le voici, tu as ce qui t'appartient. Empli de crainte, non pas la crainte de Dieu telle qu'elle est donnée par l'Esprit Saint, mais une crainte qui exprime une vision déformée de Dieu, ce serviteur se méfie du Seigneur et préfère ne rien risquer. Comme l'homme et la femme du jardin d'Éden dans le livre de la Genèse, il prête l'oreille à l'adversaire qui lui souffle qu'il peut y avoir de l'entourloupe, que Dieu peut ne pas être bon, qu'il peut même mentir. Il s'enferme dans une mentalité stérilisante, voire mortifère, qui est l'opposé de l'engagement actif qu'exige le royaume des cieux. Car, et j'en viens à l'enseignement de cette parabole pour nos vies, c'est bien à un engagement actif que cette parabole nous invite. C'est bien d'abord à faire fructifier le don de Dieu que nous sommes appelés. Dès l'origine, il en est ainsi. Le début du livre de la Genèse, auquel je faisais référence tout de suite, qui ne prétend à aucun crédit historique ou scientifique, est capital pour vivre une authentique anthropologie chrétienne. L'homme se voit confier par Dieu l'œuvre immense de la création, non pour qu'il la domine d'une manière arbitraire, mais pour qu'il la serve de manière responsable et qu'ainsi il la fasse fructifier. Le pape François nous le rappelle sans relâche, et les mentalités aujourd'hui s'ouvrent à cette responsabilité. La terre confiée à l'homme avec toutes ses merveilles, un paysage de montagne, un coucher de soleil, une tempête sur nos côtes, la naissance d'un veau dans une étable, le monde de l'infiniment petit, n'est pas confié à l'homme pour qu'il s'en repaisse vulgairement, mais pour qu'il en prenne délicatement soin et qu'ainsi il la fasse fructifier. Il peut le faire par son comportement. Il peut le faire en tempérant son égoïsme, en élargissant ses horizons. Il peut le faire aussi par son travail, comme le rappelle cette belle prière de la liturgie des heures, lorsqu'elle nous dit que le Dieu créateur demande à l'humanité de se perfectionner de jour en jour et d'achever par son travail l'œuvre immense de la création. Plus largement encore, comme le dit le pape François dans son message pour la 4e journée mondiale des pauvres, nous découvrons un précieux recueil de suggestions sur la façon d'agir à la lumière d'une relation intime avec Dieu, créateur et amant de sa création, juste et providentiel envers tous ses enfants. La référence constante à Dieu, cependant, n'empêche pas de regarder l'homme concret, bien au contraire, les deux choses sont étroitement liées. Et le pape d'ajouter, le temps consacré à la prière, nous pourrions traduire aujourd'hui l'action de grâce envers Dieu pour tous les dons reçus de lui. Ce temps consacré à la prière ne peut jamais devenir un alibi pour négliger le prochain en difficulté. Nous pourrions traduire aussi un alibi pour négliger de faire fructifier en les partageant les dons reçus. Le contraire est vrai, poursuit le pape. La bénédiction du Seigneur descend sur nous et la prière atteint son but quand elles sont accompagnées par le service des pauvres. Je parle ici de ce que le genre humain a reçu dès l'origine, mais chacun sait aussi au plus profond de son être tout ce qu'il a personnellement reçu de Dieu. le sachant, chacune, chacun, mesure aussi le combat à mener entre une appropriation égoïste, profiteuse de ce que Dieu lui a donné, et d'autre part l'appel qu'il ressent à rétribuer lui-même gratuitement les autres à partir de ce qu'il a reçu. Dans notre vie actuelle, et là où nous en sommes de l'année liturgique, la parabole des talents nous enseigne aussi sur le moment de la venue du Fils de l'homme. Le Maître revient longtemps après. Régulièrement, des voix se lèvent à la fois pour annoncer le moment du retour du Christ et pour distiller la peur dans les esprits. Écoutons Jésus qui nous dit dans l'Évangile de dimanche dernier que nous ne savons ni le jour ni l'heure. Écoutons saint Paul qui nous dit aujourd'hui que le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Écoutons saint Pierre nous dire que le Seigneur ne tarde pas à tenir sa promesse alors que certains prétendent qu'il a du retard. Au contraire, il prend patience envers nous car il ne veut pas en laisser quelques-uns se perdre, mais il veut que tous parviennent à la conversion. Le père Henri de Lubac nous dit que le salut est social, c'est-à-dire collectif, et que Dieu veut pour l'achever qu'une multitude soit prête à le recevoir. Dans cet esprit, chers amis, ne mesurons pas nos efforts. Réaliser tout ce que nous avons reçu de Dieu pour à notre tour donner à nos frères et à travers eux à Dieu lui-même ne me permettra jamais, ne serait-ce que d'envisager l'inouï du don que le Christ nous réserve, don qui est cette place qu'il nous prépare au ciel. Le retour du Christ que les lectures de ces semaines envisagent n'est pas à craindre. Notre mort même n'est pas à craindre. Le retour du Christ consistera pour lui à venir nous chercher. Quand je serai parti vous préparer une place, dit-il en saint Jean, je reviendrai et je vous emmènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Dieu ne ment pas. Jésus, Dieu fait homme, quand il nous dit cela, ne ment pas. Cette place, dont ce que nous avons déjà reçu n'est qu'un infime aperçu, il nous la prépare vraiment. Et il ajoute, pour aller où je vais, vous savez le chemin. Ce chemin, c'est celui par lequel nous refusons de nous approprier jalousement tout ce que nous avons reçu, mais le faisons fructifier par toutes les voies que notre conscience, éclairée par la prière et par la tradition de l'Église, nous enseigne pour nous détourner de nous-mêmes. Qu'à tous, il soit donné de le suivre, de les suivre. Amen.